Nous allons dans un instant lire un passage de la Bible dont le contexte est le suivant. Très rapidement après la mort de Saül, David reçoit l'investiture royale et il commence par s'emparer ou par reprendre la ville de Jérusalem qui jusqu'alors était aux mains des Jébusites. Une fois réinstallé dans la ville, un de ses premiers soucis, de ses premières préoccupations est de ramener dans Jérusalem le coffre de l'Alliance, l'Arche de l'Éternel. Dieu bénit et affermit le règne de David sur Israël. Et c'est à ce moment-là que les Philistins décident d'attaquer. Nous allons lire dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 14, quelques versets, les versets 9 à 16. Premier livre des Chroniques, chapitre 14, les versets 9 à 16. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïtes. David interrogea Dieu. « Dois-je attaquer les Philistins ? Me les livreras-tu ? » Le Seigneur lui dit, « Vas-y, je te les livrerai. » Ils attaquèrent Baal-Pératsim, où David les battit. Puis il dit, « Dieu a ouvert une brèche par ma main dans les rangs de mes ennemis, comme une brèche ouverte par les eaux. C'est pourquoi on a appelé ce lieu du nom de Baal-Pératsim, ce qui signifie « maître des brèches ». Ils abandonnèrent là leur Dieu et David ordonna de les jeter au feu. Les Philistins se déployèrent de nouveau dans la vallée. David interrogea encore Dieu et lui dit « Dieu ». Et Dieu lui dit « Tu ne les attaqueras pas, prends-les à revers. Quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors tu engageras le combat, car c'est Dieu qui se met en campagne devant toi pour battre les troupes des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Ils battirent les troupes des Philistins depuis Gabaon jusqu'à Gézer. Vous aurez noté qu'il ne s'agit pas d'une, mais de deux attaques. Bien qu'ayant essuyé une cuisante défaite lors du premier assaut, les Philistins rassemblent à nouveau leurs troupes pour tenter un deuxième affrontement. Ils se déployèrent dans la vallée. Entendez par là, ils se mirent en ordre de bataille, ils déclarèrent la guerre. Alors nous allons procéder en deux temps. D'abord, nous allons essayer de voir ce qui se passe au niveau humain, au niveau des forces en présence, et puis nous regarderons ce qui se passe au niveau de l'état-major. Que fait Dieu ? Que dit Dieu ? Alors grand A, petit 1, que se passe-t-il au niveau humain ? Nous retrouvons dans chacune des deux batailles un schéma qui se répète, qui se duplique dans le même ordre. Petit 1, les Philistins se déploient dans la vallée. Petit 2, David interrogea Dieu. Et petit 3, David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il est très intéressant de commencer par souligner que, bien qu'étant par deux fois contraint à un état d'extrême urgence, David ne répond pas directement à l'offensive ennemie. Non. David, n'ayant pas le temps, prend le temps. Il n'a pas. Il prend le temps. Et il le fait d'ailleurs en deux étapes. D'abord, il interroge, il formule, il s'en remet au Seigneur et seulement ensuite il écoute. Après le temps de la formulation vient le temps de l'écoute. Il est attentif, il assimile, il met en pratique la réponse de Dieu. Verset 16, David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Et tout cela, redisons-le, dans un contexte d'extrême urgence. Voilà ce qu'en survol nous pouvions dire sur l'aspect humain de la situation. Voyons dans le grand A, petit 2, ce que fait Dieu, ce qu'il dit, quelle est son attitude. Contrairement à ce que nous avons précédemment noté pour le côté humain, il n'y a pas ici de répétition systématique du schéma. À chaque attaque, Dieu fait des réponses distinctes et adaptées. Dans le premier cas, c'était « vas-y », accompagné de l'idée que Dieu s'implique sur le terrain, c'est lui qui opère des brèches dans le camp ennemi, et on peut considérer ces brèches comme le résultat d'un effet tsunami. Le verset 11 dit « comme une brèche ouverte par les eaux ». Alors, dans ce cas-là, le camp adverse y perçait Dieu et se trouve momentanément mis en déroute. Dans le deuxième cas, l'ordre, tout comme la tactique, diffère. Tu ne les attaqueras pas. Prends à revers. Et cette formulation a quelque chose de presque poétique avec cette image. Lorsque tu entendras des bruits de pas dans la cime des mûriers. En tout cas, cette deuxième méthode s'avérera beaucoup plus efficace que la première, puisqu'il n'y aura plus de nouvelle offensive de la part des Philistins. Cette fois-ci, la victoire est définitive. Voilà ce qu'on pouvait dire en préambule. Le déroulé des événements, les forces humaines en présence, l'attitude de l'état-major. À présent, et sans aucune transition, je voudrais dire la chose suivante. Il y a plusieurs pièges qui se présentent pour tout orateur, et notamment le suivant, c'est de vouloir à tout prix, coûte que coûte, traiter à fond deux sujets dans un seul et même propos. On ne peut courir deux lièvres à la fois. On ne peut traiter correctement qu'un sujet à la fois. Et ce matin, il va falloir choisir. Et le choix sera cornélien. En effet, d'un côté, nous avons un sujet puissant qui nous dit, qui nous propose « vas-y » avec l'idée que Dieu est un ouvreur de brèches. Et de l'autre côté, nous avons un sujet non moins puissant qui nous dit « tu n'attaqueras pas ». Prends un revers et lui accompagné de l'idée que Dieu se mette en campagne devant nous. Deux sujets majeurs, deux sujets très porteurs, deux sujets de force équivalente, mais il faut choisir. Délibérément, nous garderons le second plutôt que le premier. Pourquoi ? Évidemment, c'est un choix personnel qui n'exprime jamais qu'un point de vue subjectif. Mais, à tort ou à raison, il m'a semblé que la formule « vas-y » était en résonance un peu avec la loi du talion. Avec le vas-y, on n'est pas très très loin de œil pour œil, dent pour dent. Et puis, il y a le fait que cette première méthode aboutit certes à une victoire, mais une victoire momentanée, rapidement suivie d'un recommencement, d'une réagression. Les Philistins se redéployèrent dans la vallée. La deuxième proposition, tu n'attaqueras pas, prends à revers, semble, elle, être plus en résonance ou plus en adéquation avec ce qu'on pourrait appeler la manière christique. Elle assure en tout cas une victoire définitive. On n'y revient pas. Alors, revers. Le mot ou l'expression en hébreu qui ici est proposé par le mot revers a été traduit de différentes manières, surtout dans des versions anciennes. On trouve « tu tournoieras alentour » ou encore « alentour arrière de » ou bien « tu environneras par-dessus », c'est une autre vision, ou « tu circuleras par l'arrière ». Nous le voyons, de toute façon, le mot « revers » fait penser à l'idée de « circuler alentour ». En tout cas, l'attaque frontale n'est plus de mise. Pour autant, ah, il est intéressant quand même de le souligner, c'est que prendre à revers, circuler autour, c'est y aller quand même. Le vas-y ne disparaît pas. Mais on a totalement éliminé toute idée de frontalité. Autre chose, la définition que propose le dictionnaire est très intéressante. Je vais vous la lire deux fois. Revers. Côté opposé à celui qui se présente en premier, le plus en vue. Revers. Côté opposé à celui qui se présente en premier, le plus en vue. D'après cette définition, admettre le revers, c'est admettre que l'essentiel d'une situation ne se résume pas nécessairement à ce que l'on appréhende ou à ce que l'on en voit en premier. Ainsi, il existe une option plus intéressante que la spontanéité d'une réaction directe. Cette nouvelle donne, d'une certaine manière, invite à considérer l'éventuelle réversibilité d'une situation, d'un problème, d'une tension ou d'une menace. Et de façon connexe, on pourrait ajouter aussi que la deuxième proposition fait appel à davantage de subtilité ou d'anticipation. Tu n'attaqueras pas. Prends à revers, car c'est ton Dieu qui se met en campagne devant toi. L'avez-vous remarqué? Les injonctions que Dieu fait aux demandes de David ressemblent à s'y méprendre à des ordres militaires. Et le fait que le jeune roi obéisse comme exécutant démontre que c'est l'Éternel qui est aux commandes. Il constitue l'état-major. Mais pas un état-major hors sol. Outre qu'il supervise, il est aussi une puissance à l'œuvre sur le terrain. Ramené à nous, cela signifie que les victoires ne sont jamais le résultat de nos gesticulations, fussent-elles spirituelles, mais sont dus au fait que Dieu est en marche et que c'est lui qui combat en première ligne. Alors, quelle leçon pouvons-nous tirer de ce double combat de David? Nous l'avons bien mentionné tout à l'heure. Malgré l'état extrême d'urgence, David a procédé en respectant le bon ordre. Nous ferions bien de nous en inspirer, de ne pas nous lancer sans le préalable qui consiste à tout remettre entre les mains du Seigneur. D'aucuns, peut-être avec raison, pourraient arguer que les demandes de David ont été suivies par des réponses extrêmement nettes, extrêmement directes, extrêmement précises. Or, aujourd'hui, les réponses que nous recevons ou que nous pouvons recevoir ne sont pas aussi clairement formulées. Alors quoi ? Deux poids, deux mesures ? Pour David, la précision chirurgicale des démarches à suivre, et pour nous, le flou, l'opacité, la nébulosité. Mes bons amis, David ne disposait pas de modèle. Nous, si. Il n'avait pas d'exemple à suivre. Nous, si. Il n'avait pas de mode d'emploi écrit. Et nous, si. Nous, nous avons Christ et ses commandements. Et vous savez à quel point le Seigneur a insisté sur la mise en pratique de ses commandements. Et voilà qu'en ouvrant notre Nouveau Testament, nous lisons « Tu n'attaqueras pas, prends à revers. » Telle une signature, la prise à revers dans l'absolu devrait être un des principaux identifiants du chrétien, mais un identifiant soumis à la condition d'amour. Le contournement de l'amour parfait doit être notre estampille, non pas pour singulariser notre identité, mais parce que nous sommes porteurs des insignes d'un Dieu qui est en campagne. Ce qui, dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, pouvait se contenir dans la seule loi du talion, a été visité, a été traversé, a été bouleversé, a été disloqué par le Big Bang de l'amour de Christ. Or, tout dans l'amour que nous propose le Christ est à revers. Tout dans l'amour parfait est à l'envers. Si, si, songez qu'il ne s'irrite pas, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne tient pas compte du mal, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Au fond, on peut dire que cette méthode de l'encerclement par l'amour produit des effets similaires au mouvement de circulation du peuple d'Israël autour de la ville de Jéricho. Oui, le revers d'amour que prône le Fils de Dieu vient à bout des plus redoutables murailles. Tu n'attaqueras pas. Prends à revers. Christ, notre maître enseignant, a passé son temps à jouer les virtuoses du revers. Et ceci autant dans ses faire que dans ses dires. Faut-il un exemple ? Connaissez-vous formule plus à l'envers, plus à revers que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Mais enfin, s'il ne s'agit là que de l'aspect pédagogique, qu'en est-il du maître enseignant en tant que modèle lui-même, en tant qu'exemple ? C'est l'apôtre Paul qui fournit la réponse. Lorsqu'il s'adresse aux Philippiens, il écrit au chapitre 2, ayez en vous les dispositions qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il s'est vidé de lui-même en devenant vraiment esclave. Il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Quel revers ! Tout à l'heure, vous savez, quand nous avons parlé du vasi, nous avons dit que le vasi obtenait des victoires, mais des victoires momentanées, temporaires. Alors on se pose la question, quelle est la victoire que le Christ a remportée avec ce revers divin esclave ? Eh bien la réponse est dans le même chapitre au verset 9. Paul dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le voilà, le triomphe. La voilà, la grande victoire de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous pouvons dire que si tout en Christ est revers, tout aussi en lui est victoire. Si tout en Christ est à l'envers, en lui aussi, tout est triomphe. Le combat de terrain de notre état-major se résume tout entier dans l'image de cette croix plantée au centre du revers ou du cercle d'amour. Telle est la campagne que mène notre Dieu. Il est là. Le bruit de pas qui fait frissonner la cime des mûriers. Très bien. Mais, excusez de le dire, ne serions-nous pas en train de faire une monumentale impasse sur l'historique raclée que Jésus a administré aux marchands du temple? Lorsqu'on se plonge dans ce récit du temple, on se dit qu'effectivement, il y a de quoi se poser quelques questions. Les quatre évangélistes rapportent cette scène. Et les quatre emploient des mots qui ne laissent place à aucune ambiguïté. Si on les présente sous forme d'une liste, et il ne s'agit que de citations bibliques, ça donne ceci. Il, c'est Jésus. Il fit un fouet de cordes. Il chassa ceux qui vendaient. Il renversa les tables et les sièges. Il dispersa la monnaie des changeurs. Il ne laissait personne transporter un objet. Cette lecture, on est quand même en droit de se demander si la méthode ici ne relève pas plutôt du vasi que du revers. Il est difficile d'imaginer plus frontal, ne trouvez-vous pas? Jésus ne circule pas beaucoup, là, il ne contourne pas beaucoup. Où donc est passé le parfait modèle? Serions-nous en présence d'une contradiction manifeste? Tout doux, les amis, tout doux, ne nous emballons pas. Lorsqu'on revient au texte de la Bible, et c'est toujours ça le bon réflexe, revenir à la parole, nous nous rendons compte que cette visite de Jésus au temple se situe immédiatement après son entrée triomphale dans Jérusalem. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'intermédiaire. À cet instant T de son histoire, il n'a encore aucun ennemi réellement désigné. Il est par conséquent fondamental de préciser qu'à aucun moment dans cette scène, à aucun, Jésus n'a été agressé ou molesté personnellement, même pas verbalement. Lorsqu'il réagit ainsi, ce n'est donc pas pour se défendre. C'est une prise de position certes musclée, convenons-en, mais qui vise uniquement à rétablir la sainteté du lieu. Et s'il faut à tout prix parler de vasie, admettons alors que Jésus s'y résout pour glorifier son Père en resacralisant son temple. Et certainement pas pour soigner ou appliquer un pansement sur un quelconque bobo narcissique. Il fallait que ce soit dit. Mais alors, puisqu'il ne s'agit ici de rien de personnel vis-à-vis de Jésus, comment a-t-il réagi lorsque lui-même a été la cible, lorsque lui-même a subi les outrages? Le voit-on alors plutôt dans le vasie ou plutôt dans le revers? Cette fois-ci, c'est l'apôtre Pierre qui nous donne la réponse dans sa première épître au chapitre 2 et au verset 21. Christ lui-même a souffert pour nous donner un exemple. Quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne proférait pas de menaces. Ainsi, le revers dont a usé le Seigneur quand il a été lui-même la victime, lui-même lorsque lui-même a subi l'outrage, et notamment au cours de sa passion, n'a été ni le fouet ni la colère, mais le consentement silencieux. Quel revers! Quel contournement, quel cercle que ce consentement silencieux. Il y a enfin un tout dernier point que je voudrais souligner et qui nous montre que Christ, là aussi, est un parfait modèle, un parfait exemple. C'est que contrairement à chacun de nous, contrairement à nous, qui portons comme une mauvaise racine au fond de nos cœurs, Jésus ne s'est jamais déployé dans la vallée. Il n'a jamais été le Philistin de personne. Conclusion. Une conclusion qui commence par deux questions très directes, deux questions dérangeantes. Qui parmi nous ne trimballe pas de ces histoires de famille, de ces secrets semblables à de véritables forteresses de Jéricho, de ces citadelles verrouillées dans les murailles que sont les non-dits et les rancœurs accumulées? Deuxième question. Où donc est l'Église parfaite, exempte des hautes murailles, de l'inertie, des guéguerres personnelles et des conflits d'ego? Mes amis, cette invitation à circuler alentour, à prendre à revers, nous incite à devenir ou à redevenir des artisans de paix. Des artisans de paix. Le propos de notre méditation dominicale était d'une part d'ouvrir des pistes de réflexion sur l'idée de ne pas s'engager sans avoir tout d'abord remis toute chose entre les mains du Seigneur, et d'autre part de se rappeler que c'est les regards fixés sur le Christ, sur le modèle de Christ, que nous trouverons les moyens de l'encerclement, du contour, du revers. Le Seigneur nous interpelle, et moi en particulier, pour nous redire, pour me dire, ne les attaque pas. Prends-les à revers. Deux extraits du Sermon sur la montagne seront notre point final. Matthieu 5, 38-45. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis, de ne pas vous opposer au mauvais. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Dernière lecture, chapitre 5, 3-12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, lorsqu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Amen. Je vous invite à un court moment de réflexion silencieuse. Un dernier cantique que vous connaissez tous.